fille qui raconte sa vie avec ses parents, sa famille, ses amis, tout son collège et ses années primaires. Quand Esther est dans la même chambre avec son frère, elle s'entend pas du tout avec lui et tout. Et ben moi, c'était la même chose.
Il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont plutôt banales. Et là, elle raconte surtout les éléments plus frappeurs de la vie, quoi.
Bah, elle fait plein de bêtises. C'est qu'elle a plein d'armes et puis elle essaye tout le temps d'attaquer un petit garçon.
Il y a Jurassic Mamie, aussi à Karmastrophe et aussi à la galaxie des bizarres et Martel un jour, Martel toujours.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai envie de les tutoyer, de les appeler par leur prénom, d'être leur copine. J'ai envie de leur dire ma fierté, surtout de passer une heure avec elles à l'heure du goûter. Esther et Adèle sont mes invitées aujourd'hui sur France Inter. Alors si vous ne connaissez pas ces deux gamines, c'est que vous snobez le rayon BD de votre librairie depuis trop longtemps. Oui, je sais, c'était pas simple ces temps-ci, les librairies. Mortel Adèle et Les Cahiers d'Esther sont deux phénomènes d'édition, deux personnages de bande dessinée qui font un carton, deux filles qui en imposent. Et si on jouait au jeu des sept différences, qu'est-ce qui distingue Esther et Adèle et qu'est-ce qui les rapproche à part leur immense popularité chez les enfants? Serait-elle méchante, insolente ou plutôt courageuse? Affranchie, singulière, épatante. À l'occasion du Salon du Livre et de la presse jeunesse de Montreuil, faisons un triomphe à ces deux héroïnes d'aujourd'hui. Soyez les bienvenues, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Nous sommes au Théâtre de l'Alliance Française, émission réalisée par Claire Destacan, préparée par Anne-Sophie Dazard. Marie Lepeintre, Valentin Azan-Zielinski et Claire Vuillot sont à la technique. Bon, il n'était pas évident finalement d'inviter, de faire venir Adèle et Esther en personne, alors j'ai invité leurs parents. Bonjour Antoine Doll.
Bonjour.
Bienvenue, merci beaucoup d'être là.
Merci
Monsieur Tan, c'est vous Monsieur Tan, vous êtes le créateur de Mortel Adèle.
Tout à fait.
Monsieur Tan, c'est le pseudo derrière ce personnage célébrissime en librairie. 5 millions d'exemplaires vendu aux éditions Globule, Mortel Adèle et la galaxie des bizarres, c'est le dernier tome. Vous co-signez ces livres avec Diane Lefeyère qui est aussi avec nous à distance. Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est vous qui illustrez les BD Mortel Adèle depuis le tome 8. Comment décrire cet enfant d'abord Mortel Adèle? Je serais tentée de commencer par sa chevelure rousse.
Oui, elle a une chevelure flamboyante comme son caractère. Elle est dynamique, elle est forte, elle est pleine de vie. Et cette chevelure rousse, c'est son étendard, quelque part.
Ces deux couettes, effectivement, sont un symbole très fort. Mon troisième invité, à distance, lui aussi, c'est la magie de la radio en temps de crise sanitaire, est l'auteur des Cahiers d'Esther. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour.
Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 14 ans chez Alary Éditions. C'est le cinquième tome de cette BD. Vous racontez la vie de cet enfant depuis ses 10 ans. Alors le salon de la littérature jeunesse de Montreuil qui se poursuit jusqu'à demain est très particulier cette année. Riyad Satouf, 36e édition disséminée un peu partout en France et à la télévision sur le canal 34 de la TNT, des rencontres numériques. Est-ce que vous étiez soulagé tout de même que ce rendez-vous important ait lieu malgré tout cette année?
En effet, c'est toujours dommage quand on fait l'impasse sur un tel événement. Mais bon, la situation est quand même un peu particulière. C'est la première fois qu'il y a une pandémie qui empêche la tenue du salon.
Antoine Doll, c'était important qu'il existe tout de même, ce salon de Montreuil?
Oui, parce que je pense que c'est maintenant qu'on a besoin des héros, des héros des livres. C'est eux qui ouvrent des fenêtres sur les possibles intérieurs, extérieurs, alors que là, on est tous entre quatre murs. Donc c'est important que ces héros soient présents avec nous de toutes les façons possibles.
Et ces deux héroïnes-là, qu'est-ce que vous pensez de notre idée de rapprocher Mortel Adèle et Esther pour cette émission aujourd'hui?
Bah, je trouve ça super déjà qu'on ait deux héroïnes fortes, représentées ensemble au terme de beaucoup d'années où les garçons étaient quand même très prédominants dans le monde de l'édition et où les petites filles étaient souvent cantonnées à des héroïnes peut-être un peu plus douce et acceptable entre guillemets, avec beaucoup de guillemets. Et je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, on a le choix de des héroïnes et puis d'univers comme ça qui incarnent des choses fortes et des choses inspirantes.
Riyad Satouf, vous diriez que ces deux gamines sont du même bois?
Alors c'est vrai que Esther, c'est donc une bande dessinée que je réalise d'après les histoires vraies d'une vraie jeune fille. Donc,
alors ça commence les reproches. Effectivement, Mortel Adèle, elle n'existe pas pour de vrai.
Mais bien sûr que si elle existe. Non, mais oh.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand elle était enfant, elle était. En fait, elle ressemblait pas mal, en effet, à Mortel Adèle, parce qu'elle était. C'est une fonceuse, elle était grincheuse, et elle en voulait aux garçons, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des choses. Elles ont pas mal de poids commun. commun finalement.
Grincheuse et fonceuse, vous la reconnaissez dans ce portrait, Diane Lefeyère, Mortel Adèle ?
Sa fonceuse, oui, tout à fait. Grincheuse, ça arrive, ouais. Elle a quand même une expression très, très particulière. Elle a cet air un peu renfrogné en permanence, comme ses cheveux, hein. C'est sa marque de fabrique. Mais en même temps, elle est pleine de vie. C'est ça qui est fantastique.
Alors, on le disait, Esther, des cahiers d'Esther, effectivement, existent dans la vraie vie. Riad Satouf, on ne sait pas si c'est son vrai prénom, d'ailleurs, cette Esther. Est-ce que vous connaissez ses goûts musicaux?
Oui, bien sûr, oui. Elle m'en parle assez régulièrement. Ils ont beaucoup évolué au fur et à mesure des années.
Pouvez-vous me dire si elle écoute Angèle?
Oui, bien sûr. Ben, c'est une de ses idoles, hein. Faut quand même bien l'admettre. Alors, il se trouve que Angèle, la chanteuse, aime beaucoup les cahiers d'Esther. Alors, quand la vraie Esther a découvert que sa chanteuse préférée, il y a eu une sorte de, vous savez, de boucle temporelle un petit peu. Il y a eu une erreur système générale dans sa vie quand elle a découvert ça. J'ai cru que j'allais la perdre. Et puis, en fait, non, mais c'est, oui, elle adore Angèle, bien sûr.
Eh ben, alors, ça va faire plaisir à la vraie Esther si elle nous écoute. Voici Angèle sur France Inter avec la Britannique Dua Lipa.
Dimanche soir, Dorothée Barba sur France Inter. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. Touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras.
De la bande dessinée Mortel Adèle et Esther. À l'occasion du Salon de la littérature jeunesse de Montreuil, nous brossons le portrait de ces deux personnages. Riad Satouf, l'auteur des cahiers d'Esther, ainsi qu'Antoine Doll et Diane Lefeyère, auteur et illustratrice de Mortel Adèle, sont mes trois invités cette semaine. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'abord? Esther et Adèle sont-elles des sales gosses? Antoine Doll.
Moi, pas forcément. Je trouve sale gosse, c'est ce que diraient les parents. Mm-hmm. Les enfants, je suis pas sûr qu'ils les voient comme ça. Oui, tout dépend du point de vue. C'est vrai que les enfants, quand ils parlent d'Adèle, ils la voient plutôt comme une petite fille courageuse qui leur montre qu'on peut se lier au monde de plein de façons sans forcément renier qui on est. Et c'est ce que je trouve chouette dans ce personnage-là. Et pour moi, on est plus dans du domaine de la résistance.
Riad Satouf, Esther est-elle une sale gosse? Elle l'a été au début quand même.
Non, Esther, elle a, voilà, l'idée aussi, c'était de montrer toutes les facettes un petit peu de sa personnalité. Au départ, dans les premiers albums, Esther était souvent cruelle, souvent sans pitié avec les gens qu'elle n'aimait pas, etc. Donc elle avait en effet des côtés un peu, un petit peu qu'on pourrait dire sale gosse, mais alors les années passant, elle a grandi, etc. Mmh. Elle s'est quand même assagie sur de nombreux sujets. Maintenant, elle a même de la culpabilité vis-à-vis de ce qu'elle a fait dans les premiers albums. Donc c'est assez marrant de revenir là-dessus aujourd'hui.
Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par la plus jeune des deux. Essayons de mieux connaître, de mieux comprendre cette mortelle Adèle qui affiche un succès insolent en librairie. Notre reporter Juliette Proutot a tendu son micro à des enfants afin de savoir pourquoi ils aiment cette fillette aux grandes couettes rousses.
Parce que c'est tout le temps des bêtises.
Ben non, mais c'est drôle. J'aime beaucoup quand c'est drôle, moi.
Enfin, j'ai les yeux tout le matin et puis après, ça me fait rigoler de temps en temps.
C'est trop bien parce qu'en fait, ces bêtises, elles sont très drôles en fait.
Ah, elle déteste son chat, même si son chat l'aime bien. Du coup, elle invente toutes sortes de choses farfelues pour essayer de tuer son chat ou de le mettre...
C'est toutes ces bêtises, la façon dont elle parle, ses histoires, les noms des chapitres et comment elle se comporte. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand, par exemple, les autres se font harceler, on aurait dit, elle les défend, mais elle les défend d'une manière extraordinaire. Elle les défend pas, elle va le dire, ou elle en prend à la violence. Elle en prend à la rigolade. Elle les aide à se défendre après. Et moi, à mon avis, quand on raconte l'histoire, c'est comme si la personne dont elle raconte, c'est comme s'il racontait une vraie personne. Donc moi, c'est ça ce que j'aime bien, c'est que c'est à la fois fantastique et à la fois pas très fantastique. Voilà.
Les bêtises, est-ce le fin mot de ce succès, Antoine Doll?
Je pense que la bêtise, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a cette volonté de conquérir la liberté d'être soi. Et bien sûr, cette liberté, elle passe par la désobéissance. C'est la désobéissance qui a construit les grands mouvements de notre société, les grandes évolutions de notre société. Et voilà, et je pense que les bêtises en sont une expression. Le non, le refus, la confrontation, c'est ça la clé, je pense.
Diane Lefeyère, c'est ainsi qu'on vous l'a présenté quand il a s'agi de rejoindre l'aventure mortelle Adèle, une gamine qui fait des bêtises?
On m'a dit, c'est une petite fille qui a beaucoup d'imagination.
Est-ce que vous reconnaissez votre personnage dans ce que vous venez d'entendre dans la bouche des enfants, Diane Lefeyère?
Oui, oui. Ce que les enfants disent quand ils parlent de la rigolade, mais qu'en même temps, elle aide les enfants qui sont harcelés, qu'elle les accompagne, que ça leur donne des clés, que ça les fait rire, pour moi, c'est merveilleux. Enfin, pour nous, c'est incroyable.
Alors évidemment, les lecteurs et lectrices de Mortelle Adèle, quand ils ont su que j'allais, moi, vous parler, ils avaient des questions pour vous, des questions à me transmettre.
La question que je me pose, c'est pourquoi il a fait ce livre, le but de ce livre, et comment il a eu cette idée.
Pourquoi sa passion autant de tuer, en fait.
Comment il fait? Est-ce que... il s'inspire de quelque chose avec Mortelle Adèle ou il imagine lui-même?
Est-ce que c'est dur à imaginer?
Mais comment il a imaginé la tête de Mortelle Adèle? Parce qu'elle ressemble, c'est un peu un carré.
J'aimerais bien la voir comme si c'était une princesse et elle enchaîne tout le temps avec les robes. Oh, arrêtez de saleté de robe, elle est princesse et voilà.
Moi j'ai bien envie de la voir très aimable, très polie.
Ouais.
Et qu'elle dise des faux gros mots comme Capitaine Haddock.
Bon, Patrick!
Alors, très aimable et très poli, Antoine Doll, c'est pas prévu, je crois.
On n'a pas prévu un tome de science-fiction total. Non, pour l'instant, pas du tout.
Pourquoi ce livre? C'est la première question.
Pourquoi ce livre? C'est un personnage que j'écris quand j'avais 14 ans. Moi, j'étais victime de violences scolaires de la 6e à la 4e. Et à un moment donné, j'ai eu besoin d'exprimer cette colère, d'exprimer ce besoin de passer à travers... le jugement des autres et le regard des autres. Et donc j'ai pris une feuille et j'ai tracé ce trait qui est la barre de front d'Adèle qui lui donne toujours cet air en colère. Et c'est le premier trait que j'ai posé à 14 ans pour regarder le monde dans les yeux. Et puis j'étais convaincu qu'il existait quelque chose de plus grand que cette douleur que je traversais. Et donc j'ai écrit Adèle et je me suis caché à l'intérieur d'elle en attendant de trouver cette chose plus grande qui m'attendait quelque part.
Elle était votre double ou le contraire de vous?
C'était le négatif. Mmh. Moi j'étais un garçon, c'était une fille. J'étais très sage, elle était très active. J'osais pas répondre, elle osait tout dire. Je me suis dit, puisque rien de ce que je suis ne fonctionne avec les autres, je vais créer quelque chose qui sera tout l'opposé. Et puis finalement, quand on crée quelque chose, on n'est jamais très loin de soi. Et c'est ce qui m'a aidé à devenir l'adulte que j'étais amené à devenir.
À moins que ça soit trop douloureux d'en parler aujourd'hui, est-ce que vous sauriez dire ce que vous reprochez à les autres enfants à l'époque, Antoine Doll?
Mais quels que soient les reproches, finalement, ça n'a pas tellement de sens, puisque on sera toujours le bizarre de quelqu'un, on sera toujours le moche de quelqu'un. Et s'il y a des enfants qui nous écoutent aujourd'hui, c'est important de leur dire ça, que rien ne justifie qu'on s'en prenne à eux et qu'au contraire, ils doivent affirmer qui ils sont, être fiers de qui ils sont, briller plus fort. Moi, je faisais du dessin et on m'a cassé le pouce. C'était une façon d'annuler tout ce que j'étais. Et je suis heureux aujourd'hui de m'accomplir dans une carrière d'auteur, mais aussi prochainement d'illustrateur et de répondre à ça en existant plus fort.
Les enfants qu'on vient d'entendre ont parlé de la tête un peu carrée de Mortel Adèle. Ça, c'est une question pour vous, Diane Lefeyère. Pourquoi sa tête est-elle un peu carrée?
Parce qu'elle est très remplie.
Une tête d'enclume, non? Un peu.
Une tête d'enclume. C'est surtout qu'elle a énormément de cheveux, mais parce que dans ses cheveux, elle range énormément de choses. Elle a besoin de son attirail en permanence avec elle. Donc, les couettes, c'est un peu le sac de Mary Poppins, vous voyez.
Mais c'est vrai qu'Antoine Doll parlait à l'instant de la ligne de front qui lui donne cette colère très, très drôle. Voilà, on est sur un visage assez peu en rondeur, hein.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, mais parce que c'est l'expression d'une colère avant tout. Le premier dessin de Mortel Adèle était l'expression d'un cri. Donc elle est née de ce fracas.
Et ses taches de rousseur sont craquantes. Retournons écouter vos lecteurs avec cette question importante. Qu'est-ce que ça change que Mortel Adèle soit une fille?
D'habitude, c'est des garçons qui font tout ça. Alors que là, c'est mieux que ce soit une fille, parce que sinon, c'est toujours des garçons qui font des trucs comme ça. Parce que dans mon école, il n'y a pas beaucoup de filles qui font des bêtises. Je sais pas, parce que les filles, je sais pas pourquoi elles font, mais elles font pas beaucoup de bêtises.
Mais c'est plus drôle parce que c'est une fille, parce que les garçons, ils adorent les têtes de mort, que les filles, ils adorent les nœuds, tout ça, donc c'est un peu plus drôle. Par exemple, ce serait drôle si ce serait un garçon et qui adore les cœurs, tout ça. Ce serait un peu plus drôle.
Non, ça change rien. Tout ce qui est pour les filles est pour les garçons, et tout ce qui est pour les garçons est pour les filles.
Par exemple, Ariole, c'est un garçon, et pourtant les filles, elles aiment.
Ariole, autre personnage de BD qui méritait également sa place dans notre panthéon aujourd'hui. Antoine Doll, ça suscite le débat, on l'entend parmi les enfants. C'est plus drôle parce que c'est une fille, Mortel Adèle.
Je ne sais pas si c'est plus drôle parce que c'est une fille, parce que finalement, il y a des petites filles drôles, il en existe des tas. Et deux choses pour moi qui étaient importantes quand on a fait cette bande dessinée, parce qu'elle aurait pu rester dans mes carnets éternellement. Le choix d'en faire une bande dessinée, c'était d'abord de montrer aux petites filles qu'elles peuvent devenir ce qu'elles ont envie de devenir et qu'elles sont pas cantonnées à avoir une bande de copines, à aimer les petits chats et à vouloir faire partie d'un club de danse, mais qu'elles peuvent rêver de devenir présidente de la galaxie et fabriquer un zombie. Et...
Elle est allergique aux paillettes, hein, Mortel Adèle.
Elle est allergique aux paillettes, effectivement. mais on peut aimer les paillettes si on a envie d'aimer les paillettes, c'est pas une fin en soi. Mais aussi de montrer aux petits garçons qu'on peut avoir une fille comme héroïne. Et ça, c'était un vrai pari pour nous, c'était de faire une BD qui ne soit pas qu'une BD pour les petites filles, mais une BD pour tous les lecteurs.
Il y a autant de garçons que de filles parmi vos lecteurs.
Ouais, c'est extrêmement mixte et on est très fiers de ça avec Diane, parce qu'en fait, ça veut dire que les enfants, ils ont compris le monde vers lequel il faut qu'ils aillent et la manière dont il faut faire grandir la société qu'on leur laisse. C'est ça qui est important.
Diane Lefeyère, Mortel Adèle est-elle féministe?
Elle est porteuse de plein de valeurs qui sont la défense des plus faibles, de dire que on peut être qui on est, comme on veut l'être.
Mais en soi, rien que cette démarche-là, elle est féministe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dire aux enfants, aux filles comme aux garçons, parce que le féminisme, c'est pas qu'un sujet de jeunes filles, c'est aussi un sujet d'éducation des garçons à ce qui fait aujourd'hui un être humain, dans sa complexité, dans sa densité, dans son apprentissage à la fois de sa féminité et de sa virilité. Et Adèle, c'est une petite fille qui s'empare de ces deux énergies pour s'accomplir pleinement.
Quand on lit Mortel Adèle, est-ce qu'on a envie de devenir son amie? Juliette Proutot a posé la question aux enfants qu'elle a rencontrés.
J'aimerais bien, mais ce serait pas possible, vu que dès qu'on lui demande d'être son amie, elle s'apprête à vomir. Elle va vomir vu qu'elle déteste le monde messier, elle veut rester solitaire. Elle est méchante, mais c'est quand même ultra drôle.
Et c'est le génial Aldebert qui chante les louanges
tout
de Mortel Adèle.
Alors Dorothée Pousséo.
Elle déteste le mot amitié, Mortel Adèle, Antoine Doll.
Mais je pense qu'Adèle, c'est une petite fille qui essaye de se lier aux autres, mais qui le fait avec tellement de maladresse et tellement de...
Mais c'est sûr, quand on vomit face aux amis, ça marche moins bien.
Et c'est peut-être une façon aussi de dire... C'est quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose qui m'effraie, c'est quelque chose que j'aborde avec beaucoup de prudence. Mais vous savez, quand on dit qu'on aime personne, c'est jamais tout à fait vrai. Donc c'est ça qui est chouette, c'est de la pudeur.
Les parents de vos lecteurs et lectrices, Diane Lefeyer, est-ce que parfois ils sont horrifiés par ce qu'ils entendent, ce qu'on vient d'entendre par exemple, là, ça peut faire peur à des gens qui ne connaîtraient pas ce personnage?
C'est l'occasion de parler. Disons qu'Adèle, c'est aussi une passerelle entre les enfants et leurs parents. Donc quand un parent voit son enfant rire à gorge déployée, de dire « mais qu'est-ce qui te fait autant rire? Pourquoi ça te fait autant rire ?» c'est très important. Un parent, c'est un ancien enfant, donc de replonger un peu dans les aventures d'Adèle et dans son quotidien qui est rigolo, absurde et loufoque, ça leur fait aussi beaucoup de bien. Et c'est un moyen de communiquer, je pense, avec son enfant.
Une dernière question aux enfants qu'on a rencontrés. Quel est leur passage préféré dans les BD Mortelle Adèle?
Sa mamie, elle dit que c'est une sorcière parce qu'elle a entendu son papa dire à sa mère « Ta mère, c'est une vraie sorcière ». Donc elle mène l'enquête après.
Cette galaxie a besoin de toi, Adèle. Tu dois libérer tous les enfants pour qu'ils soient libres d'être ce qu'ils ont envie d'être.
Quand elle a ouvert son armoire et il y avait plein d'armes, j'ai trouvé ça surprenant parce que je ne sais pas comment elle fait pour récolter toutes ses armes.
Au début, il y a son petit génie qui lui dit, comme Mortelle Adèle, il dit comment être gentil. Et lui, il répond, je vais regarder dans mon livre et il regarde. Et il faut dire un mot gentil pour réchauffer quelqu'un tout l'hiver. Et après, Adèle, elle s'enfuit et elle revient. Et elle dit, moi, j'ai même pas besoin de mots. Elle sort quelque chose avec qui sort une flamme.
Et en plus, moi, je m'en souviens d'un petit truc. Et ben en fait, ses parents, ils disent « Oh, elle est très bonne ta tarte, Adèle !» Non mais, et puis après, ils disent « Mais avec toi, avec quoi tu l'as fait ?» Et puis elle a dit « Avec un chat !» Et là, le père, on voit l'image, il recrache.
Et en fait, avec son chat, c'est trop marrant. Elle fait des chatellites, des chats stéroïdes. C'est Adèle qui part en montgolfière, et du coup, le type de la montgolfière, il dit « Il faut enlever du poids. » Adèle dit « Attendez, je m'en occupe. Larguez les chamards !»
Voilà, donc je pense qu'on va recevoir des coups de fil des associations de protection des animaux.
Mais non,
Antoine
parce que
Dole,
les gens qui...
Pourquoi tant de haine à l'égard des chats?
Les gens qui dirigent les associations d'animaux comprennent le second degré et la démonstration par l'absurde. Les enfants y arrivent, donc les enfants comprennent qu'on est dans l'excès, qu'on est dans l'humour et qu'on est dans le dans
alors
le
moi
rire.
Je vous pose une question tout à fait premier degré. Est-ce que vous faites l'apologie de la violence avec ses lance-flammes et ses armes? Elle est très violente, Mortelle Adèle.
Non, je trouve, en tout cas c'est pas notre vocation. Nous on est là pour montrer aux enfants la complexité de ce qui les compose, et je pense que même adultes, il y a des moments où vous avez envie de catapulter votre patron, vous avez envie de donner vos factures à manger à un crocodile, vous avez envie de vous débarrasser de votre ex peut-être. Adèle, en fait, elle imagine que tout ça est possible. C'est rien de plus que du fantasme et l'idée que tout est possible à un moment donné de cet endroit de l'imagination.
Mmh. Diane Lefeyer, la gentillesse est une maladie pour Adèle.
Ça s'attrape. C'est contagieux.
Et c'est très grave.
C'est assez drôle.
Quand elle est trop polie, quand elle dit trop merci, on l'emmène chez le docteur parce que c'est très inquiétant.
Exactement.
Chez
mais
Adèle,
oui, vous voyez, même les adultes, ils trouvent ça bizarre.
Elle se fait prescrire des bêtises parce qu'elle est trop sage. Et le docteur dit, mais c'est bien la première fois qu'on me demande de prescrire des bêtises. Donc ça montre bien que... Voilà.
On entend beaucoup ces temps-ci qu'on ne pourrait plus rien dire et que certains types d'humour seraient interdits. Est-ce que vous vous sentez parfois menacé avec cet humour-là, Antoine Dole, un humour absurde, décalé, volontiers, à rebrousse-poil?
C'est notre quotidien. Moi, je passe beaucoup de temps à recevoir des messages de gens qui me disent qu'il ne faut pas écrire aux enfants, ce qu'il faudrait au contraire leur écrire. Le but du jeu, c'est de ne pas écouter ces gens-là. On nous reproche plus, en fait, qu'elles soient à ce point libres. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est du domaine de la liberté, qui fait peur aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles on est, et l'idée qu'on aurait pu penser autrement, qu'on aurait pu construire sa vie autrement, qu'on aurait pu aimer autrement, être bizarre, tout simplement. Il y a quelque chose qui est de ce domaine-là. Alors après, je pense que quand on travaille, il faut savoir qui est son patron. Nous, notre patron, c'est les enfants. Je pense qu'aujourd'hui, quand une série, elle parle à 5 millions d'enfants, au-delà du fait qu'on pourrait simplement se réjouir de voir 5 millions d'enfants lire, on peut aussi se réjouir que ce soit 5 millions d'enfants qui, à un moment donné, ont un regard sur leurs émotions, sur les conflits qu'ils ont en eux et cette confrontation à leur peur de grandir, puisque c'est de ça dont il s'agit. C'est une petite fille qui a tout simplement peur d'avoir à compromettre qui elle est pour trouver sa place et qui doit l'inventer.
Vous parliez de ces millions d'enfants qui lisent grâce à Mortelle Adèle. Il faut préciser que c'est aussi un roman, Mortelle Adèle. Mortelle un jour, mortelle toujours, aux éditions Bayard. C'était un sacré pari de transformer ce personnage de bande dessinée en personnage de roman, Antoine Dole.
Un pari pas tout à fait, parce que, alors, sur le plan créatif, pas tout à fait, parce que moi, je viens du roman à la base. Donc, c'était un vrai souhait de ma part, à un moment donné, de réconcilier ces deux aspects de mon écriture, la bande dessinée et le roman. Mais c'était un pari pour faire comprendre aux enfants quels lecteurs ils sont. Nous, on passe notre temps à rencontrer avec Diane sur les festivals des enfants qui nous disent « Ah, moi, je déteste lire, mais j'ai lu tous les Mortels Adèle. »
Donc, c'est la phrase qu'on a mis... pas lire.
Et c'est voilà. La phrase qu'on a mis au tout début du roman, de leur dire « Mais quand t'as lu les 17 tomes de Mortels Adèle, en vrai, t'as lu plus de 1300 pages. » Et donc, ça veut dire que si t'as lu 1300 pages, il n'y a aucun livre sur aucune étagère qui peut t'effrayer aujourd'hui.
Diane Le Feuillère, c'est l'une de vos grandes fiertés, j'imagine, d'accompagner les enfants à la lecture.
Oh ben c'est merveilleux. On a tous eu des héros d'enfance qui nous ont accompagnés le mercredi après-midi. Moi, je lisais beaucoup Picsou quand j'étais petite. Mmh. Et je me dis que tous ces enfants qu'on accompagne aujourd'hui et qu'on fait rire aujourd'hui, à qui on apprend l'humour, le second degré, l'absurde, avec lesquels on construit l'adulte qu'ils seront dans quelques années, c'est incroyable, c'est merveilleux.
C'est un peu la cousine de Riri Fifi Loulou, non, Mortel Adèle?
C'est la quatrième.
C'est la quatrième.
Ou alors de Tom Tom et Nana, non?
Oui, Tom Tom et Nana, ouais. Ça a bercé mon enfance avec les J'aime lire. Et effectivement, moi, c'est comme ça que la lecture, elle est rentrée chez moi. C'est par ces bandes dessinées dans les magazines qui arrivaient à l'école et qu'on s'arrachait dans la cour de récréation. Les livres, ils rentrent... aussi comme ça, le pouvoir des cours de récréation, les gestes écologiques qui sont nés des cours de récréation, c'est comme ça qu'ils rentrent dans les maisons. C'est pas les parents d'un coup qui se décident à fermer le robinet, c'est les enfants qui ramènent ces choses-là.
C'est les enfants qui engueulent leurs parents, en effet.
Exactement.
Parce que le robinet coule trop. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire comme bêtise à Adèle?
Mais tellement. Tellement. Et la preuve, c'est qu'on est en train de travailler avec Diane sur la suite. Donc le tome 18 qui sort en mai, le roman 2 qui sort au mois de mars, le prochain collector... qui sort en octobre, et le dessin animé, qui est la grande aventure dans laquelle on se lance là sur 2021. Donc Adèle, elle a encore beaucoup de choses à vivre et à faire vivre et à partager. Voilà,
Mortel Adèle sera bientôt une série animée, comme l'est déjà Esther, les cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Ça vous inspire, cette méchanceté comme matière première, Riyad Satouf?
Alors, la méchanceté que pouvait avoir parfois la vraie Esther, oui, c'est vrai que je l'ai souvent raconté, parce que moi, c'est quelque chose dont j'étais très friand, c'était de l'authenticité des sentiments et des émotions et des réactions et de toute la palette, en fait, incluant la cruauté, la méchanceté, mais elle est aussi très douce, compréhensive, elle se sent coupable, voilà, c'est toute la palette... qui me plaisait.
Voilà, après Mortel Adèle, on va brosser le portrait d'Esther dans un instant. Je vous propose d'abord qu'on écoute Anne Sylvestre. Elle n'aimait pas qu'on la réduise à une chanteuse pour enfants. Elle chantait pour les êtres humains et elle savait émouvoir à tous les âges. Anne Sylvestre, vous le savez, nous a quittés cette semaine et je voulais lui rendre hommage en l'écoutant se moquer malicieusement de Beethoven.
La la la. Ma voisine ne sait jouer que ça, gna gna gna, gna gna gna. Du matin au soir il n'y en a, la la la, la la la. Que pour Élise, et supposons que je lui dise à ma façon, depuis le temps que tu entends ça, gna gna gna, gna gna gna, est-ce que ça ne te saoule pas, la la la, la la la. Mais qui était cette Élise qui défrise nos pianos, qui sans fin se gargarise et se grise de trémolo? Dis Ludwig, si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça, est-ce que tu n'aurais pas fignolé, rajouté un bémol ici ou là? Est-ce qu'à ton Élise tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voix? La la la, la la la. Chaque jour à l'heure du courrier, et aller, il faut qu'elle vienne massacrer, et taper, et tamponner. Mes chères Élise, il serait bon que vous accusiez réception. Qui sait, mais si vous lui répondiez par courrier recommandé, elle pourrait apprendre par cœur, enfin le guet labour. je sais que je m'en lasserai. Mais ça là là, mais ça là là, mais ça me changerait.
France Inter, Barbatruc.
Lettre ouverte à Élise, c'était Anne Sylvestre sur France Inter. Celle qui aimait les gens qui doutent nous a quittés cette semaine. Merci pour la tendresse. Une émission spéciale Salon de Montreuil cette semaine dans Barbatruc, un salon de la littérature jeunesse chamboulé bien sûr par la crise sanitaire mais qui a bien lieu. Et nous avons choisi de mettre en avant les deux superstars de la BD. J'ai nommé Mortel Adèle et Esther. Antoine Doll et Diane Lefeyère qui publient Mortel Adèle aux éditions Globule sont mes invités, ainsi que Riyad Satouf, le papa d'Esther. Est-ce que c'est énervant à la longue, Riyad Satouf, cette expression, le papa d'Esther?
Non, pas du tout.
Non. Vous n'êtes pas son papa.
Ça m'embête pas du tout. Non, mais je suis son papa de papier. Je n'ai pas de problème avec ce terme. C'est pas assez. J'aime beaucoup les papas en général.
Je m'appelle Esther et j'ai 11 ans. Après avoir fait ma primaire dans une école privée, je suis maintenant en 6e dans un collège de prestige à Paris. Là, c'est moi le matin en mode « Ok, t'es au collège maintenant, ma belle. » Avec mon petit pull, le vide à l'heure. En fait, je devais aller dans un collège près de chez moi où va mon frère aussi. C'est une spep ou je sais pas. Un collège violent où les filles se font harceler par des garçons tous aussi con que mon frère.
Et je viens de lâcher une caisse pour toi, wesh. Vas-y, tu sens. Esther, tu la sens ma caisse?
Lol. Mon père m'a inscrite à un test pour entrer dans un collège dans un quartier chic et j'ai été acceptée. Mon père m'a dit que c'était une grande chance pour moi. Eh, mais c'est le collège qui a de la chance de m'avoir en fait.
Mais non, je gueulerie.
Alors je dis ça parce que dans ma classe de 6ème, les gens, mais ils sont trop moches en fait.
On s'en fiche, mais c'est intéressant à observer.
Celle-là par exemple, elle a du duvet sous le nez. Et elle semble se sentir bien. Elle a des Stan Smith aux pieds, genre ouais, je suis à la mode.
Il y a un seul garçon que je trouve magnifique. C'est Louis.
Sa mâchoire, elle est superbe. Chevelure tout en boucle noire, nez parfaitement droit. Et surtout, il parle aux adultes comme s'il avait leur âge ou je sais pas, en mode de égal à égal.
Est-ce que vous vous êtes coordonné avec les autres professeurs pour limiter les différents livres qu'on doit apporter, pour que nos sacs soient moins lourds?
Non, pas du tout, nous n'avons pas du tout fait ça.
Ah bon, c'est vrai.
Ce garçon est parfait. Je plaisante, hein.
Les cahiers d'Esther, extrait de la série d'animation diffusée sur Canal+. Les trois premières saisons sont disponibles sur MyCanal. Il y a un décalage entre la bande dessinée et la télévision, puisque la jeune Esther a déjà 15 ans dans la vraie vie, Riyad Satouf. Alors vous nous disiez tout à l'heure que la vraie Esther, celle qui inspire cette bande dessinée depuis 5 tomes, aimait beaucoup Angèle et qu'elle était fascinée à l'idée qu'Angèle, la chanteuse, aime lire cette bande dessinée. Est-ce que ça l'a fait enfin s'intéresser à votre travail? Parce que je crois qu'au début, elle s'en fichait un peu, non?
Oui, c'est vrai. Ça a d'ailleurs été une des raisons qui a fait que j'ai eu envie de faire des bandes dessinées avec ces histoires. C'est qu'elle voyait absolument pas l'intérêt de refaire des bandes dessinées. Elle lisait pas tellement de BD. Elle était vraiment comme une sorte de pingouin. Vous savez, quand on les filme et ils font pas attention à la caméra, elle passe devant. Donc c'était assez agréable pour l'écouter, etc. Mais maintenant, c'est vrai que les cahiers d'Esther ont eu tellement de succès, en fait, au fur et à mesure des années, que son attention s'est portée sur les livres, mais surtout parce que Esther lui est arrivée par l'extérieur. C'est-à-dire que c'est arrivé plusieurs fois que des copines à elle, qui ne savaient pas qu'elle était la vraie Esther, lui offrent des albums pour son anniversaire, par exemple.
Dans ce cas-là, elle dévoile le secret.
Non, absolument pas. Non. Elle l'a dit à quelques-unes de ses copines, mais pas toutes ses copines non plus. Et en même temps, comme je change pas mal les histoires par rapport à la réalité, parfois, je pense qu'elle craint peut-être de passer pour une folle en disant que c'est elle qui inspire telle ou telle histoire. Donc elle se retient pas mal. Mais c'est vrai que les albums dans la réalité qui lui reviennent à elle, là, ça a attiré son attention et on met parfois ça en scène dans les histoires. Maintenant, justement, cette espèce de célébrité par procuration de son personnage de papier.
Elle s'en amuse d'ailleurs de cette célébrité. Par exemple, lorsqu'elle fait son premier babysitting dans l'une de vos BD, elle s'adresse au lecteur en disant je cherche d'autres babysitting, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, écrivez à l'éditeur.
Non, tout à fait, d'ailleurs c'est assez amusant, c'est quand elle m'a raconté cette histoire, c'était en effet une fois où elle a fait pour la première fois du babysitting, et ensuite à cette histoire, on a reçu peut-être, je ne sais pas, 50 propositions de gens qui voulaient la prendre comme babysitter pour leurs enfants, qui habitaient dans les différents endroits de Paris, enfin, c'est assez rigolo.
Alors si on s'amuse toujours à jouer à ce jeu des différences entre nos deux héroïnes du jour, entre Mortel Adèle, Adèle et Esther, il y a sans doute une différence importante, c'est l'âge du lectorat. J'imagine que les lecteurs de Mortel Adèle sont plus jeunes que ceux des Cahiers d'Esther.
Au départ, les Cahiers d'Esther, en fait, ont été créés, disons, plutôt pour les adultes. Je dirais que c'était une page de bande dessinée qui passe encore toutes les semaines dans le magazine L'Obs. Moi, je sais que quand je fais mes livres, je réfléchis pas tellement à une cible de lecteurs, si ce n'est de me dire qu'il faut que mes bandes dessinées soient lisibles par des gens qui ne liraient pas de bandes dessinées ou qui auraient peur de lire des bandes dessinées. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je dirige ce que je fais. Alors, au fur et à mesure des années, au début, j'avais énormément de lecteurs adultes, bien sûr, mais au fur et à mesure des années, les enfants s'y sont intéressés dans la bibliothèque de leurs parents, où il y avait des grands-parents qui découpaient la page dans le magazine pour leurs petits-enfants, etc. Et maintenant, j'ai beaucoup de jeunes qui lisent les Cahiers d'Esther, des garçons comme des filles, mais pas de l'âge quand même, je pense, des lecteurs de Mortel Adèle. Moi, ça commence peut-être vers 10, 12, 13 ans. Quoi.
Ils ont environ l'âge de votre Esther. D'ailleurs. Voilà.
Alors, oui, exactement.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir un petit frère? Est-ce que les crevettes et les cafards, c'est pareil? Greta Thunberg est-elle une chanteuse de Kids United? Autant de questions importantes que se pose cette adolescente, Riyad Satouf.
Oui, alors c'est vrai que c'est aussi les Cahiers d'Esther, c'était aussi l'idée d'essayer de voir ce qui peut se passer dans la tête d'une jeune fille entre guillemets sans histoire de notre époque. C'est-à-dire Esther, elle n'est pas d'une famille défavorisée ni favorisée, elle n'est pas ni moche ni superbement belle, elle n'a pas de problème, ses parents s'aiment, elle a une famille à peu près équilibrée. Donc j'étais très curieux de savoir comment elle voyait le monde, comment elle imaginait le futur, qu'est-ce qu'elle pense de la politique, qu'est-ce qu'elle en reçoit par l'extérieur. Donc ça m'intéressait beaucoup justement de... Quand on entend tous ces, souvent peut-être des messages un petit peu défaitistes ou apocalyptiques sur l'état de notre monde, etc. J'avais envie d'entendre ce qu'avait un enfant à dire pour essayer de voir si on pouvait quand même avoir des raisons d'espérer et de rester optimiste.
Alors nous sommes allés voir vos lecteurs et vos lectrices, Riyad Satouf. Pourquoi aime-t-elle autant lire les Cahiers d'Esther?
Barbatruc, Dorothée Barba.
Franchement, j'aime bien parce que on voit vraiment quelqu'un de la vie quotidienne sans qu'on nous dise quoi en penser. Donc c'est vraiment un autre sujet. Bah, ça donne envie aux gens en fait de lire parce que c'est quelqu'un comme nous qui, elle a quand même fait 4 tomes de bande dessinée sur sa vie, alors que c'est une personne qui vit la vie comme nous. C'est pas une célébrité. C'est quelqu'un que ça se trouve on la croise dans la rue, on ne sait pas. On ne sait pas que c'est elle. Et justement, c'est ça, c'est sa force, c'est l'anonymat.
Moi, je trouve que ça fait un peu genre reportage, on ne pense pas sur ce qui se passe, on décrit juste ce qui se passe. Et ça, c'est intéressant parce que comme ça, on a des faits, tout dit, sans opinion avec. On a le droit de penser ce qu'on veut des Cahiers d'Esther.
Il reste toujours le mystère de si c'est vrai, si c'est pas vrai et tout, mais bon. Moi, je pense que c'est vrai quand même, parce que c'est bien de croire que c'est vrai. Hein.
Bah, en fait, c'est juste l'histoire qui est... Enfin, c'est normal, c'est la vie de tous les jours. Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est drôle comme ça, de se dire, ça se trouve, loin de moi, il y a quelqu'un qui vit juste la même chose que moi, avec la même histoire et tout. Je trouve que c'est vraiment très bien et elle devrait avoir beaucoup plus de succès.
Alors, on a déjà pas mal les Cahiers d'Esther aux éditions Alary. Riyad Satouf, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre. Je retiens notamment qu'on a le droit de penser ce qu'on veut quand on vous lit, encore heureux. Aucune morale dans les Cahiers d'Esther et ça plaît beaucoup aux lecteurs.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est aussi mes goûts de lecteur ou de spectateur. J'aime bien que le créateur ou que ce que je suis en train de lire ou de regarder fasse confiance à mon intelligence et me laisse me faire mon idée sur les choses. Alors déjà, parce qu'en plus, dans la vie, le manichéisme n'existe pas vraiment. Il n'y a pas le bien et le mal et tout est imbriqué. J'aime bien essayer de retranscrire cette complexité parce que, par exemple, notamment Esther, la vraie Esther, il lui est arrivé d'être très méchante. Mais on peut comprendre les raisons qui poussent quelqu'un à être méchant. C'est-à-dire, si on se met de son point de vue, c'est une manière aussi de rendre les choses peut-être plus humaines. Et alors elle évolue au fur et à mesure du temps, la culpabilité, tous ces aspects qui font L'expérience humaine, en fait, et que j'ai envie de retranscrire, mais sans en effet les juger. C'est trop facile de dire « Ah, c'est pas bien de faire ci ou ça ». Je pense que mes lecteurs, déjà quand ils lisent un livre, ils sont capables de se faire cette opinion par eux-mêmes. Il y en a certains qui trouvent que Esther est odieuse d'être gentille avec certaines personnes et qu'elle elle a raison d'être méchante avec... c'est assez... Moi, c'est vrai que quand on... Leur réaction, ce que viennent de dire les enfants là, sur le fait que c'est une histoire qui ne juge pas ces personnages, rien ne peut me faire plus plaisir que ça.
Sa force, c'est l'anonymat, vient-on d'entendre également. On sent bien que ce qui les fascine, c'est le fait de savoir qu'elle existe, mais qu'on ne sait pas vraiment qui c'est, on ne sait pas vraiment si tout ce que vous écrivez est vrai. Le succès réside aussi là-dedans, Riyad Satouf.
Peut-être, oui, c'est vrai. Alors, il y a une espèce de recherche comme ça de qui est cette jeune fille. Ça m'est arrivé plusieurs fois en plus que des jeunes filles me disent qu'elles racontent à leur entourage qu'elles sont la vraie Esther parce qu'elles lui ressemblent un peu physiquement, etc. Il y a tout un espèce de petit jeu comme ça c'est très drôle. Souvent, je vois arriver en dédicace dans les librairies des jeunes filles qui viennent me voir et elles sont habillées comme mon personnage, en fait. Alors que la vraie Esther, souvent, ne s'habille pas forcément comme moi je l'habille. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose d'un peu vertigineux par moment, et c'est vrai que cette idée de s'identifier à quelqu'un qui n'a pas une vie complètement hors du commun, disons, et d'essayer de trouver ce qu'il peut y avoir d'extraordinaire dans quelque chose de commun, ça me plaît beaucoup que ce soit ressenti comme ça par les lectrices.
Les ados qui vous lisent assidûment profitent de cette émission pour vous poser des questions, Riyad Satouf.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Comment ils font pour faire, genre, ils se voient toutes les semaines ou genre... une semaine sur deux, parce que ça doit être un peu long à la longue. Comment elle fait pour raconter tous ces trucs? C'est comme le truc avec sa copine qui crache dans l'iPhone, aussi le coup du manteau qu'elle jette par la fenêtre. Je comprends pas comment elle arrive à raconter ça.
Parce qu'il y a certaines choses que moi j'aimerais pas trop qu'on sache. Par exemple, une fois il y a son amie qui a mis la tête dans les toilettes et a tiré la chasse d'eau après. La personne a dû un peu se reconnaître si c'était vrai, parce que ça n'arrive pas tous les jours.
Et voilà, c'est le mode opératoire qui les intéresse beaucoup. Comment faites-vous? À quelle régularité la voyez-vous, cette jeune fille? Et comment procédez-vous, Riyad Satouf?
En fait, on se téléphone ou elle m'envoie des messages par WhatsApp ou Instagram, etc. Et ensuite, on échange. Mais alors, c'est vrai qu'une de ses caractéristiques à la vraie Esther, c'est que c'est une jeune fille très volubile. C'est-à-dire qu'elle parle énormément. C'est une sorte de radio sans fin, ce qui est quelque chose d'assez, entre guillemets, que j'ai croisé assez rarement chez les enfants ou les ados, qui parfois cherchent leurs mots ou ont peut-être des soucis à bien aligner leurs idées. Elle parle à fond. Et donc, c'est vrai que ça va assez vite. Par exemple, quand le lecteur racontait pour l'histoire du manteau, c'est une fois, en fait, elle n'aimait pas son manteau, elle l'a jeté par la fenêtre. Tout le monde s'était moqué d'elle. Elle l'avait raconté à ses parents, en fait. C'est vrai que les cahiers d'Esther, c'est pas un journal intime, disons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle raconte à tout le monde. Voilà, c'est libre de... Je vais jamais chercher quelque chose d'extraordinaire chez elle. Et c'est la description de l'acte et de qu'est-ce que ça peut avoir comme sens et pourquoi, comment on le vit et pourquoi ça lui arrive et pourquoi elle et pas d'autres. Voilà, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Elle me raconte son histoire brute et c'est moi ensuite qui la met en forme.
On le disait tout à l'heure, elle était un peu cruelle, voire un peu peste lorsqu'elle était plus jeune, cette petite fille. Ça va un peu mieux aujourd'hui, si j'ose dire. C'est ça aussi qui fascine dans cette bande dessinée, Riyad Satouf, c'est que vous parvenez à mettre des mots et des vignettes sur le temps qui passe, tout simplement.
Alors, le temps passe un peu tout seul. Je dois bien admettre que je ne fais même pas aucun effort. Je fais mes pages toutes les semaines en essayant de suivre vraiment ce qu'elle me raconte. Je ne fais jamais de pages d'avance sur les cahiers d'Esther. Et je me rends compte, en fait, en effet, par exemple, il y a quelque temps, là, elle a recroisé un petit garçon qu'elle avait même franchement martyrisé en primaire avec ses camarades de classe. C'était un petit enfant qui était harcelé. Elle l'a recroisé par hasard dans une grande surface et ce jeune garçon avait grandi et il gardait même pas de mauvais souvenirs de ses mauvais traitements, en fait, qu'elle lui avait fait, parce que les autres se moquaient de lui, mais il avait un peu oublié. il lui a reparlé, il était tout gentil avec elle, etc. Et à cette occasion-là, moi, je me suis replongé dans les premiers cahiers d'Esther que j'avais pas relus depuis cette époque-là pour retrouver les histoires de ce petit garçon qui avait été maltraité. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en effet, un, du temps qui passe et aussi de l'évolution du dessin et du personnage qui a grandi au fur et à mesure des cases. Et je n'en ai même pas la maîtrise consciente, en fait. C'est vrai que voilà, moi, je le fais au jour le jour et le personnage lui-même aussi grandit sans que je m'en aperçois.
J'aime beaucoup cette phrase que j'ai relevée dans l'une de vos BD, Riyad Satouf. En fait, il faut que j'avoue quelque chose de très important. Malgré ce que pourrait faire croire cette BD, j'ai pas du tout confiance en moi, un truc de ouf. Voilà qui résume bien le personnage, non?
C'est vrai, oui, oui. Alors que parfois, on pourrait croire en effet qu'elle a plutôt confiance en elle. Mais voilà, les êtres sont multiples.
Et mystérieux. À la fin du tome 5, on lui enlève ses bagues à Esther, ses bagues sur les dents. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « ça va être une belle année, j'en suis sûre, allez ». Et elle parlait donc de l'année scolaire 2019-2020. Mais quel flair, Esther!
Aïe, 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 oui, oui, ça c'est vrai que, voilà, c'est un peu... son côté prophétique ou médium n'était pas vraiment très, très efficace. Mais en même temps, peut-être, qui sait, si ça se trouve, on regrettera 2020 quand on aura vécu 2021. On ne sait pas encore.
Le pire
peut-être
n'est jamais
une
certain.
Belle année quand même.
Et cette exploration de l'adolescence va se poursuivre pendant un moment, hein, parce que vous allez continuer à nous raconter la vie d'Esther jusqu'à ses 18 ans, c'est ça?
Ben, j'aimerais bien, voilà, j'espère, juste au moment où elle sera reconnue par la société comme adulte, même si elle ne le sera pas forcément, mais voilà, c'est l'âge adulte.
Et c'est à lire, je le rappelle, aux éditions Alary, les 5 tomes des Cahiers d'Esther qu'on peut voir aussi sur MyCanal pour la version dessin animé. La littérature jeunesse à l'honneur dans Barbatruc à l'occasion du Salon de Montreuil. Et celui qui, chaque semaine, plonge avec enthousiasme dans les bouquins pour enfants, c'est Denis Chessou.
Dorothée Barbat sur France Inter. La tulipe, mon petit loup.
Bonjour à tous. L'actualité du livre pour enfants débute par la grande course des gens de Clémence Sabag et Magali Lehuche aux éditions Les Fourmis Rouges à partir de 6 ans. Alors, priorité au direct car aujourd'hui, un événement majeur se déroule.
Bienvenue pour la retransmission en direct de la grande course. Compétition organisée par la famille des gens. Pour ses plus jeunes membres, un événement sensationnel.
3721 gens sont sur la ligne de départ. Alors parmi eux, tous les favoris, Jean-Johnny, Jean-Serge, Jean-Brice ou encore Jean-Maurice. Et qui gagnera? Ils sont entraînés, ils sont prêts. Applaudissez ces courageux qui s'engagent dans cette épreuve difficile.
Plusieurs coureurs s'échappent en tête, on retrouve nos gens favoris, ils sont très rapides, ils prennent déjà leur distance avec le reste du groupe.
Les premiers obstacles se dressent devant eux, la piste devient nivelée et glissante. Les coureurs font parler leur technique avec plus ou moins de réussite. Tous les coups sont permis pour éliminer la concurrence. Jean-Maurice en fait les frais, il fonce tout droit dans un brouillard épais et tombe dans un trou.
Ici, au studio, on m'informe que Jean-Maurice ne répond plus.
C'est là que l'idole des jeunes, Jean-Johnny, coiffure banane au vent, fait demi-tour pour venir à sa rescousse.
On le sent fatigué, peut-être blessé. Jean-Johnny le soutient et l'aide à marcher. Il est de retour! Que de frayeur!
Jean-Brice accélère, tête baissée, pour passer le prochain obstacle à un mur. Alors là, il le percute de plein fouet.
Course sans dessus-dessous.
Eh oui, les concurrents ont tout simplement quitté le parcours, volatilisé dans la nature et empruntent des chemins imprévus. Alors, il ne reste plus rien de la compétition. Chacun suit son propre chemin à sa manière.
Rien ne sert de courir. Il faut partir à point, racontait un autre Jean.
Eh oui, parce que ceux de l'album de Clémence Sabag et Magali Lehuche racontent plutôt qu'avant de se mettre à courir, il faut trouver son propre chemin. Et au terme de cette course échevelée, pavée d'humour alors absurde et de jeux de mots pris à la lettre, c'est la solidarité et la sérénité qui triomphent. La grande course aux éditions des Fourmis Rouges est à partir de 6 ans. Le Royaume sans soleil est signé Maya Brami et Karine Desay aux éditions Saltimbanque pour les 6-7 ans et c'est un conte écologique tartiné de poésie et d'espoir. L'histoire d'un royaume triste et gris dans une vallée pelée par la pollution. Alors Blanche se nomme ainsi car on n'avait pas vu la lune dans le ciel depuis le jour de sa naissance.
la petite fille rêvait de la princesse amérindienne Sacagawea, la femme oiseau.
Une phrase l'intriguait plus que les autres.
À travers les feuilles, je verrais le ciel bleu et pourrais m'émerveiller de l'éternité de notre terre.
Elle la roulait dans sa bouche, goûtait à son mystère, hein, persuadée qu'une vérité s'y cachait. Alors son roi de père ouvrait la fenêtre pour faire des exercices afin de chasser les odeurs nauséabondes de l'usine toute proche. Les seules fleurs cultivées du royaume l'étaient en serre. Et un matin, le médecin ausculta le roi, qui ne pouvait plus se lever.
« Désolé, votre majesté, votre mal m'est inconnu. » Le roi, énervé, le congédia. « Ma reine, il y a urgence, une véritable épidémie. L'ensemble du royaume est touché, la fumée. »
Non, ce n'était pas une malédiction comme le pensait la reine qui a fait disparaître les oiseaux et affaibli les humains. Alors elle sortit un grimoire.
Tous les remèdes y sont à base de plantes et de petites bêtes.
Mais il n'y avait plus de traces de nature encore debout dans ce royaume. L'usine vomissait dans la rivière. Les gens s'affolèrent.
« Quoi ? Fermer mon usine ? Mais ils ont perdu la tête, gronda le roi. »
Blanche, inquiète, vit apparaître le colibri.
« Monte sur mes ailes, il n'y a plus de temps à perdre. »
Ils montèrent haut dans le ciel. Et puis ils arrivèrent dans un pays où tout dialoguait. Les animaux, les plantes, les insectes. Un simple brin d'herbe en train de pousser faisait une musique. Le colibri se transforma en princesse Sacagawea, messagère de la terre-mère couronnée d'oiseaux.
« Tant qu'un arbre est debout, il y a de l'espoir. »
Alors elle prit le brin d'herbe pour faire repousser les arbres de son pays. Et à son retour, le temps et la volonté firent leur œuvre et surgit l'aube d'un jour nouveau.
Le roi fut sauvé en versant sa première larme.
Réfléchir sur l'importance de la nature en découvrant la vraie vie de cette Amérindienne de la fin du XVIIIe siècle qui a inspiré ce conte, c'est donc Le Royaume sans soleil de Maïa Brami et Karine Desay aux éditions Saltimbanque à partir de 6 ans. Merci à Xavier Pestugia pour ses réalisations, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Et bon, on vous souhaite de belles lectures.
Merci Denis, on retrouve les titres et les références des livres que vous conseillez sur le site de France Inter à la page de L'as-tu lu, mon petit loup. Nous sommes toujours avec Diane Lefeyère, Antoine Doll et Riyad Satouf. Et j'ai une dernière question à vous poser avant de vous laisser tranquille tous les trois. Question rituelle dans Barbatruc. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Vous commencez Antoine Doll ?
Moi c'est les odeurs de cuisine. J'ai une maman qui cuisinait beaucoup quand j'étais enfant et c'est vraiment mes premières sensations de partage, d'échange. Et qui ont nourri mon rapport à la création. La cuisine, c'est une façon formidable de créer, de rassembler les gens. Et c'est ce qui m'a inspiré.
Un plat aussi. En particulier, une odeur ?
Un plat. Alors, le plat, c'est un plat qui n'existait pas quand j'étais petit, mais que maman faisait chaque fois que j'étais malade. C'était de la viande sauce tomatée, qui est une espèce de bolognaise extrêmement riche en viande. Et qui, moi, était mon plat de petit malade.
Viande sauce tomatée.
Ouais, c'est resté. Hein. Même à 39 ans, j'en fais.
Même question, Diane Lefeyère. Quelle est l'odeur de votre enfant ?
Je dirais que c'est l'odeur du jardin de ma grand-mère. Elle habitait à Marseille et près de la mer. Et en plein été, le jardin était écrasé sous cette chaleur du midi. Et moi, je lisais Hercule Poirot sous les oliviers. Non, mais voilà. Et il y avait l'odeur. Je sais pas. C'était ce mélange de l'air de la mer avec la poussière et l'odeur des oliviers et du jardin vert. Et ouais, c'est des moments très heureux de calme et de lecture. C'est mon enfance.
On y est avec vous. Merci pour le voyage. Riyad Satouf, même question, l'odeur de votre enfance.
Oh, je dirais que moi, l'odeur de mon enfance, c'est l'odeur de sueur des gens de ma famille. chaque personne de ma famille avait une odeur particulière, corporelle, qui n'était pas masquée par forcément des parfums ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'on oublie peut-être à notre époque, dans nos sociétés un petit peu aseptisées, entre guillemets. Mais c'est que chaque individu a une odeur à lui. Et je me rappelle très nettement, enfant, que les gens, par exemple, mes tantes, celles que je préférais, avec lesquelles je préférais passer du temps ou avec lesquelles je préférais, par exemple, faire un câlin, etc., c'était celles qui avaient l'odeur qui me plaisait le plus. Et pourtant, il y en avait qui étaient très gentilles avec moi, mais leur odeur, je sais pas, il y avait quelque chose de... Donc c'est vrai que la sueur, l'odeur corporelle des gens me ramène très très vite à l'enfance.
De la viande, de la sauce tomate, des oliviers sous le soleil et de la transpiration. Il est très joli, notre cocktail olfactif de la semaine. Un grand merci à vous trois. Les cahiers d'Esther sont à lire chez Alary, histoire de mes 10 ans, histoire de mes 11 ans et ainsi de suite jusqu'à l'histoire de mes 15 ans et ça n'est pas fini. On recommande aussi, bien sûr, tous les tomes de L'Arabe du Futur de Riyad Satouf chez Alary également. Quant à Mortel Adèle, on la lit chez Globule. Il y a 18 tomes au total, on le disait. Jurassic Mami, Funky Moumout et le dernier, Mortel Adèle et la Galaxie des Bizarres, signé Monsieur Tan, alias Antoine Doll et Diane Lefeyère. Je recommande aussi le roman pour grandes personnes d'Antoine Doll, Météore, chez Actes Sud. J'ajoute que le salon de la littérature jeunesse de Montreuil, qui se déroule dans des conditions différentes cette année, mais qui se poursuit tout de même, c'est jusqu'à demain, jusqu'au 7 décembre. Grand merci à vous trois, bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée.
Merci à tous et à bientôt sur France Inter.